Alors, Isabelle Cousin a accepté, merci, de faire cette présentation, donc elle vous dira un certain nombre de choses, sachant que l'objectif est d'être en partie, en tout cas, un petit peu interdisciplinaire, mais on verra si le jeu est joué. Moi, je prends 30 secondes de la parole simplement pour la présenter. Donc, j'ai un mémo qui a été envoyé par Catherine Hainaut de l'INRA d'Orléans. Donc, Isabelle Cousin est directrice de recherche à l'INRA. Elle travaille au site INRA d'Orléans, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, dans une unité de recherche qui porte sur les sols, travaille sur les propriétés physiques des sols et elle est spécialiste de la réserve en eau dans les sols. Actuellement, elle participe à une expertise pardon, collective conduite par l'INRA pour le compte du ministère de l'Écologie et du Développement Durable sur les services écosystémiques qui sont donc le cœur du propos d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu vas présenter donc un certain nombre de travaux interdisciplinaires conduits dans le cadre de cette expertise, et notamment sur les services écosystémiques rendus par les sols en résonance avec les approches qui sont traitées dans le réseau thématique de recherche MIDI. Voilà. Donc tu as certainement beaucoup plus de choses à dire et je te laisse la parole. Merci.
Merci de nous. Bonjour à tous. Bonjour à nos collègues de Nogent et d'Orléans qui nous suivent en visio. Donc, comme Denis vous l'a précisé, je participe à une expertise collective qui s'appelle EFES. C'est une expertise qui est conduite par le ministère de l'Écologie, qui veut dire étude française, évaluation française, pardon, des écosystèmes et des services écosystémiques. C'est une étude qui est conduite à la demande de l'Europe, puisque la stratégie sur la biodiversité européenne impose aux États membres de faire une évaluation et une cartographie des services écosystémiques sur leur territoire. Et donc, la France a délégué cette fonction au ministère de l'Écologie qui a séparé les territoires en différents écosystèmes, dont un écosystème qui sont les écosystèmes agricoles et qui a délégué cette étude sur les écosystèmes agricoles à l'INRA. Donc, dans ce cadre, moi j'interviens comme experte sur les sols. Et donc, je vais vous présenter ici quelques éléments de réflexion qui sont issus de cette étude collective et de l'analyse de la littérature que j'ai fait avec des collègues sur les services écosystémiques auxquels contribuent les sols. Et je vais m'attarder plutôt sur les cadres conceptuels et les méthodologies d'évaluation, puisque cette étude est en cours, les résultats n'en sont pas publiés, donc on n'a pas encore vraiment de résultats sur des services rendus par les sols. Et donc j'ai associé à cet exposé Olivier Théron, qui est un chercheur en agronomie à l'INRA, qui est l'un des pilotes de cette étude EFES-EA et avec qui j'ai eu des échanges particulièrement riches sur les services écosystémiques. Alors, comme je pense notre auditoire ici est très diversifié, j'ai préparé un exposé en plusieurs parties. Je me permets une petite courte partie introductive sur les sols. Qu'est-ce que c'est les sols? Comment on peut les qualifier? Je vous présenterai ensuite des cadres conceptuels pour évaluer les services écosystémiques. Et je vous présenterai enfin quelques exemples d'évaluation de services écosystémiques auxquels contribuent les sols, et puis quelques remarques conclusives assez générales qui nous permettront peut-être, j'espère, d'ouvrir la discussion. Alors, quelques mots pour commencer sur le sol au cœur de nos écosystèmes et qu'est-ce qu'on entend par le sol. Alors, vous le savez peut-être, le sol, c'est un milieu multiphasé, abiotique, donc qui comporte sur la gauche ici de l'écran de la matière minérale, des fluides sous forme liquide et sous forme gazeuse. Ça, c'est la plus grosse partie du sol. Et puis le sol comporte aussi, pour quelques pourcents, mais particulièrement utile, des éléments biotiques, donc soit de la matière organique morte ou vivante, et puis de la faune et de la flore à différentes échelles. Et donc on a coutume de dire que dans une poignée de terre, on a plus d'individus que le nombre d'êtres humains sur Terre. Donc quelques chiffres, 10 puissance 12 bactéries, 10 puissance 4 protozoaires, 10 puissance 4 nématodes et 25 km de champignons. Et cette énorme biodiversité terrestre, c'est quand même beaucoup une terra incognita. Et c'est ce qui a fait dire au journal Science, il y a déjà certes une grosse dizaine d'années, puisque c'était en 2004, que les sols, c'était la dernière frontière de la connaissance, the soil, the final frontier. Et à l'époque, on disait qu'on connaissait mieux les sols de la planète Mars que les sols de la planète Terre, ce qui reste vrai à l'heure actuelle. Donc ce milieu multiphasé biotique et abiotique, il est vraiment au cœur des écosystèmes, puisqu'il est à l'interface, vous le savez, entre l'atmosphère, l'hydrosphère que j'ai représentée si grossièrement par une nappe phréatique, la biosphère, on en a parlé, et puis la géosphère. Alors ce sol, il est souvent structuré de façon subhorizontale, selon ces limites que vous voyez ici, qu'on appelle des horizons. C'est lié en particulier au fait que les flux de matière et d'énergie dans les sols sont essentiellement, bien sûr pas principalement, mais sont grossièrement verticaux, de par les transferts d'eau et de matière vers la profondeur par gravité, et puis de par les flux évaporatoires et transpiratoires vers la surface, qui génèrent cette structuration bidimensionnelle. Alors ce que je vais appeler les sols dans la suite de mon exposé, c'est donc cette fine couche à la surface de la croûte terrestre qui est la zone de colonisation par les racines. Alors qu'est-ce que c'est l'épaisseur d'un sol? Ça reste un sujet de débat originel mais toujours actuel des pédologues. Qu'est-ce que c'est l'épaisseur du sol? Quelle est la profondeur du sol? Donc on va se contenter de cette définition qui accorde à peu près les pédologues et les agronomes. Et puis ce sol, bien sûr, il est très variable dans l'espace. Alors là, je vous ai présenté la carte des sols de France à l'échelle du millénaire. Donc c'est la seule carte des sols exhaustive, gratuite et disponible pour tous, que vous pouvez trouver sur le site du Centre commun de recherche à Ispra en Italie, et qui vous montre une sorte de structuration du milieu. Vous reconnaissez les effets de matériaux parentaux, mais ce qui fait des sols, c'est bien sûr le climat. Donc en France, on a des climats contrastés, donc une très grande variabilité nord-sud des types de sols. Le relief, bien sûr, les organismes vivants, on en a parlé, et puis les actions cumulées du temps, via ou pas, des interventions humaines. Alors je ne vous conseille pas d'aller regarder aussi bien à Tours qu'à Orléans sur quel type de sol on est, parce qu'à cette échelle-là, on a quand même un petit peu de risque que ça soit pas tout à fait juste. Voilà. Et puis alors, passer ces généralités sur les sols, je voulais vous introduire des conceptions qui permettent de réfléchir un petit peu sur les sols qui sont assez récentes, qui ont été proposées par Henry Lynn, qui est chercheur aux USA, et qui nous expose qu'on pourrait réfléchir le sol dans trois cadres conceptuels de vision du monde. Donc il nous propose de considérer d'une part la vision du monde newtonienne, donc depuis la première moitié du 18e siècle, on va dire qu'on avait coutume de faire de la science sur des entités non vivantes, dans des milieux abiotiques, déterministes, selon des modèles linéaires, dans des systèmes fermés, avec des mots-clés que vous avez ici un petit peu, qui sont réversibles, en équilibre, certitude, homogénéité. Ça, c'est le monde de la science des entités non vivantes, que parfois on a appelé l'âge de la machine. Première moitié du 19e siècle, non, deuxième moitié du 19e siècle, pardon, Darwin nous entraîne vers une vision du monde qui va qualifier les entités vivantes, donc ce qu'on appelle parfois l'âge de l'environnement. Là, on va s'intéresser à des systèmes biotiques en évolution, non linéaires, qualifiés par de l'hétérogénéité, par de l'incertitude, par de l'irréversibilité, et surtout qualifiés par une temporalité marquée. Et depuis le milieu des années 50, 1950 pardon, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici, donc je parle du siècle dernier, on peut proposer une troisième vision qui va réconcilier ce monde du vivant et du non vivant, ce monde de l'espace et du temps, et qu'on appelle parfois l'âge de la durabilité. Où les mots-clés, ça va être du coup ni biotique ni abiotique, ça va être le holisme, on prend tout en compte, ça va être le milieu de l'auto-organisation, du semi-vivant, le monde de l'information. Alors je vous propose cette vision de Lynn parce que il considère ainsi qu'on peut qualifier les sols comme des milieux semi-vivants. Vous avez sur le graphique d'en haut un continuum d'échelle qui va vous mettre sur la gauche, enfin pas uniquement d'échelle, hein. Sur la gauche vous avez plutôt le règne du non-vivant, la lumière, les composants aériens, l'eau, les composants minéraux. Sur la partie droite, où là on va qualifier des choses dans une dimension discrète, vous avez le monde du vivant. Et le sol, comme je l'ai dit au départ, c'est du biotique et de l'abiotique, et donc Henry Lynn nous propose de qualifier le sol comme des milieux semi-vivants. Moi j'aime bien cette proposition parce qu'elle va un petit peu à l'encontre de certains discours qu'on peut entendre du grand public qui sont, vous avez peut-être entendu dire, les sols sont morts, c'est la catastrophe, les sols sont morts. Pour que les sols soient morts, il faudrait que les sols soient vivants. Les sols contiennent du vivant, mais les sols ne sont pas et ne sont pas que du vivant. Donc cette proposition de semi-vivant, je la trouve assez séduisante. Et surtout, elle nous offre un cadre conceptuel intéressant pour réfléchir des processus qui se produisent dans les sols à deux temporalités différentes. Dans les sols, on a beaucoup de processus de type altération, lessivage, qui vont se mettre à l'œuvre sur des durées extrêmement longues et lentes. Et puis, au contraire, on a aussi des processus qui sont liés au vivant, donc qui vont avoir un début et une fin, qui sont le début de la vie et la mort des êtres vivants, et qui vont être plutôt répétitifs, etc. Et donc, cette proposition de semi-vivant nous permet de réconcilier la partie biotique et abiotique du sol. Et ça, c'est quelque chose auquel, personnellement, je suis assez attachée, même si heureusement, les écologues ont des visions intéressantes pour nous actuellement, il ne faut quand même pas perdre de vue que le sol, c'est aussi du milieu non vivant et qu'il ne faut pas oublier la partie abiotique dans le milieu du sol. Voilà. Donc, après cette brève introduction, je vais entrer un peu dans le vif du sujet et je vais vous proposer des approches qui permettent d'évaluer les services auxquels contribuent les sols, les services écosystémiques auxquels contribuent les sols. Alors pour commencer, je ne vais pas être très originale, je vais revenir sur la définition de la notion de service écosystémique telle qu'elle est présentée dans ce qu'on appelle le Millennium Ecosystem Assessment, le MEA, qui a été publié en 2005. Suite à une demande au début des années 2000 de Kofi Annan, qui était alors secrétaire des Nations Unies, et qui avait demandé à un groupe d'experts d'évaluer les conséquences des modifications des écosystèmes sur le bien-être humain, et qui souhaitait ainsi qu'on pose les bases d'une action scientifique pour maintenir la durabilité des systèmes. Et donc, le cadre de l'évaluation, le cadre du Millennium Ecosystem Assessment, c'est le suivant. Alors déjà, pour commencer, on est bien d'accord que service écosystémique, ça veut dire service rendu par les écosystèmes. Et donc, on propose d'organiser tout ce que les systèmes sont capables de produire et de réaliser pour l'être humain en différentes classes. Donc, on va définir ce qu'on appelle des services d'approvisionnement, des services de régulation, des services culturels. Alors, j'aime bien cette photo de terrasse chinoise parce que je trouve qu'elle permet d'appréhender d'un seul coup d'œil effectivement des services d'approvisionnement, qui vont être par exemple ici de la production rizicole, des services de régulation, qui vont être tout ce que vous voyez ici sur les transferts d'eau et la façon que l'écosystème va avoir de réguler les flux d'eau, et puis, si on y est sensible ou pas, des services culturels de nature esthétique par exemple. Alors, ces services d'approvisionnement, ce sont bien sûr l'approvisionnement en nourriture, en eau, en bois et en fibres. C'est aussi l'approvisionnement en énergie. Ce qu'on appelle dans le MEA les services de régulation, c'est ce qui va réguler le climat, les inondations, les maladies, ce qui va conduire à la purification de l'eau. Et puis, les services culturels, la définition en est plus délicate, mais c'est ce qui va être du domaine de l'esthétique, du spirituel, de l'éducatif et du récréatif. Et puis à ces trois catégories de systèmes, on a une catégorie dite services de support qui vont contenir notamment le cycle des nutriments, la formation des sols et la production primaire. Donc vous voyez que dans cette proposition, les sols, qui est notre cadre d'intérêt plus spécifique aujourd'hui, se situent plutôt dans les services de support. Alors voilà ce que les écosystèmes sont capables de réaliser, de produire. En quoi ils vont apporter du bien-être humain? Ça, c'est l'autre phase du Millennium Ecosystem Assessment. Donc, ce que rechercherait l'humain, bien sûr, dans une conception très occidentale de la vie, il y a des civilisations pour lesquelles cette façon de voir n'est pas du tout pertinente et pas souhaitable. Mais disons ce que dans la société occidentale, on souhaite atteindre, c'est de la sécurité, donc pour soi-même, la sécurité d'accès aux ressources, la protection contre les désastres. C'est ce qu'on appelle les bases matérielles d'une bonne vie, entre guillemets, c'est-à-dire avoir des moyens de subsistance décents et une nourriture suffisante, un toit, de l'accès aux biens. C'est bien sûr avoir la santé, à la fois physique et psychologique. Et avoir de la santé, c'est aussi avoir accès à des ressources de qualité, notamment d'eau et d'air. Et puis c'est avoir, entre guillemets, des bonnes relations sociales, c'est-à-dire avoir de la cohésion sociale, du respect mutuel et de l'empathie. Et si ces quatre catégories sont à peu près réalisées, on entre dans ce qu'on va appeler la liberté de choix et d'action, qui dans les civilisations occidentales passe pour, mais ce n'est pas une proposition personnelle, c'est la position du MEA, passe pour la liberté ultime, qui est la liberté de choix et d'action. Donc le schéma du Millennium Ecosystem Assessment, c'est celui-ci. Vous avez à gauche, en vert, des services rendus par les écosystèmes, selon les quatre catégories que je vous ai exposées, avec un jeu de flèches particulièrement compliqué, ici j'en ai reproduit que quelques-unes, qui vont donner sur ce qu'on appelle le bien-être humain et ces 5 cases que je vous ai, présentées ici. Alors, j'attire votre attention sur 2 points dans cette proposition du MEA. Le premier, c'est la position de la biodiversité dans ce cadre. Vous voyez que la biodiversité, elle n'est pas directement dans le cadre du Millennium Ecosystem Assessment, c'est-à-dire que ce n'est pas un service en tant que tel, mais on va dire que les services écosystémiques, ils dépendent de la structure et des processus qui ont lieu dans les écosystèmes générés par les êtres vivants et leur interaction avec le milieu abiotique. Donc c'est intéressant quand on cherche à qualifier les services rendus par les sols, de constater que la biodiversité n'est pas un service. Il y a des cadres dans lesquels la biodiversité est un service. Deuxième élément très important du MEA, c'est la position de l'ensemble de ces services dits de support. Ce n'est pas par hasard si le MEA a cette représentation graphique conceptuelle de sa proposition. Vous voyez que les services de support sont en amont des autres services, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'appellent de support. Il n'y a pas de flèche qui relie directement les services de support aux éléments du bien-être humain. Alors parfois on a qualifié ces services de services écosystémiques intermédiaires, c'est pas tout à fait satisfaisant. Et ce qui est frappant aussi, c'est que la plupart des services rendus par les sols, dans le cadre du Millennium Ecosystem Assessment, entrent dans le cadre des services de support. Alors ça, c'est quand même une difficulté pour les évaluer, puisque souvent, les sols, on va les mettre un peu partout. On va les mettre dans les services de support, mais en même temps, ils contribuent, par exemple, comme support de la production végétale au service d'approvisionnement. Et donc, il est souvent fréquent que les gens qui font de la comptabilité de services écosystémiques soient amenés à compter plusieurs fois les services rendus par les sols. Alors ça, c'est un constat qui ne vient pas de nos disciplines des sciences biotechniques, enfin de la mienne au moins, mais qui vient de l'analyse des économistes qui disent « Attention, quand on utilise le Millennium Ecosystem Assessment, on a des problèmes de comptabilité économique. » Donc, essayons d'aller vers autre chose, et en particulier pour les sols, sinon on va compter leur contribution à plusieurs niveaux. Alors, je vous propose un second cadre, qui est celui proposé par Hanjung et Pochin. Il est publié en 2010, mais je pense qu'ils ont travaillé un certain nombre d'années dessus. Donc c'est un service dit en cascade. On va commencer par le cadre en haut à gauche. L'idée, c'est que les écosystèmes, ils ont une structure biophysique dans laquelle prennent place des processus qui vont remplir des fonctions. Ces fonctions peuvent ou pas rendre ensuite des services dont on tirera un bénéfice. C'est le cadre bleu que vous avez en bas. Alors un exemple, qui est celui cité par Hanjung et Pochin, qui est celui de, par exemple, des forêts, les woodlands que vous avez sur le diaporama, eh bien, ces woodlands, on peut dire que la présence de forêts va ralentir, peut-être, le passage de l'eau, réguler le passage de l'eau, et donc va permettre, peut-être, de réguler des risques d'inondation. Donc, la fonction, c'est réguler le passage de l'eau, et le service, c'est lutter contre les inondations. Donc, on va pouvoir ensuite, si on le souhaite, faire une évaluation économique qui serait de nature, que peut-on mettre en œuvre si on supprime la forêt pour maintenir ce coût de lutte contre l'irrigation. Enfin, ce n'est pas mon propos ici. Mon propos, c'est de vous proposer ce cadre où on va d'un côté séparer un peu l'écosystème, c'est le cadre que vous avez, le premier cadre plutôt en haut à gauche, et puis de l'autre, plutôt le sociosystème auquel ces services vont s'adresser. Et vous voyez qu'on a une structure où la fonction, c'est vraiment ce qu'est l'écosystème, et on passe de la fonction au service quand l'être humain en tire un bénéfice. Et donc, dans un certain nombre de cadres conceptuels, c'est comme ça qu'on voit les choses. Les services, ce sont des composants biophysiques des écosystèmes utilisés par l'homme, activement ou passivement, pour son bien-être. Je vous ai mis en anglais ensuite la définition des Nations Unies, que je ne vais pas me risquer à vous lire ici avec mon accent. Voilà. Et donc ces composants, ce sont donc des éléments de la structure de l'écosystème ou des processus écologiques. Alors j'insiste parce que moi qui ne suis pas écologue, je sais que les écologues emploient parfois le terme de fonction dans une autre acception, mais là dans cette acception-là, la fonction c'est vraiment ce que fait l'écosystème et ce n'est pas encore le service. Alors si on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans les sols, eh bien quelles sont les fonctions et les services associés auxquels peuvent contribuer les sols. Alors j'ai mis ici sol agricole entre parenthèses parce que c'est plus ma spécialité, je vais vous parler plus souvent de sol agricole, mais c'est pas quand même complètement irréaliste pour des sols d'autres milieux. Alors les sols remplissent un certain nombre de fonctions. Alors il y a des tas de typologies de fonctions rendues par les sols. Alors moi j'ai choisi celles qui catégorisent les fonctions rendues par les sols en quatre groupes. Une fonction support, une fonction filtre, une fonction réservoir, une fonction tampon. Vous avez d'autres cadres assez célèbres, notamment celui de Winfried Bloom, qui était un chercheur autrichien particulièrement actif dans les années 90-2000, qui lui propose une vision à 6 fonctions, parce qu'en fait il sépare les fonctions, la fonction support et la fonction réservoir, selon que on va s'intéresser au vivant ou au non-vivant, peu importe. On va partir sur celle-ci. Alors, quelques exemples de services que les sols vont pouvoir, auxquels les sols vont pouvoir contribuer sur la base de leurs fonctions. Alors, des services comme production de biomasse, production énergétique ou alimentaire, production de textile. Vous avez des petites illustrations là qui vous montrent un champ de blé, un champ de coton. Et puis aussi support au sens physique du terme, c'est-à-dire soutenir, là ici, des éoliennes ou bien des panneaux solaires. Donc ça, on est plutôt ici dans un cadre de service d'approvisionnement. Les sols, ils vont aussi contribuer à faire du contrôle biologique de pathogènes, réguler les flux d'eau. Vous avez une image ici de zone humide que je recommanderai tout à l'heure. Et ils vont contribuer à la dégradation des contaminants par la partie filtre. Donc là, on est plutôt dans des services de régulation. Ce sont aussi des réservoirs, donc des réservoirs de biodiversité, je l'ai dit en introduction, mais ce sont aussi des réservoirs de matériaux. On peut aller carrément creuser le sol. C'est bien le cas de la tourbe, où on utilise le sol en tant que matériau pour l'intérêt humain. Et puis, un certain nombre de services. Alors, vous voyez que je me suis replacée encore ici dans le cadre du MEA, puisque j'ai maintenu formation des sols, cycle des nutriments, séquestration du carbone. On va aller petit à petit vers une autre proposition. Alors, quels sont les services auxquels contribuent les sols? Je vous ai donné un exemple. Si on analyse la littérature, on a un petit peu des constantes qui reviennent. Alors, je vous présente ici une étude que j'ai faite en analysant une trentaine de publications. En réalité, il y en a plus, mais ce qui est important, c'est qu'il y avait surtout des revues qui traitaient explicitement des services rendus par les sols. Parce que finalement, les sols, de par leur position au cœur des écosystèmes, ils sont quand même un peu présents partout. C'est pas toujours évident d'aller chercher la littérature qui va qualifier les services rendus par les sols. Il y a quelques documents et puis il y a aussi des documents de revues. Alors, le problème aussi de l'analyse de la littérature sur la question des services écosystémiques, c'est que le vocabulaire n'étant pas stabilisé, et les concepts non plus, on peut parfois trouver sous le même vocable des choses qui sont un peu identiques ou dont on a l'impression qu'elles le sont mais qui ne le sont pas en réalité. Il faut essayer d'aller un petit peu gratter vraiment dans les définitions proposées par les auteurs pour être sûr qu'on ne commet pas d'impair. Néanmoins, voilà, donc une liste, je ne vais pas tout vous commenter, je voulais attirer votre attention sur les longues barres. Donc, la plus longue barre, et ce n'est pas uniquement un effet de mode, la plus longue barre sur laquelle on associe souvent les sols, c'est la question de la séquestration du carbone. Donc ça ne vous surprend pas. Le sol est connu comme étant un réservoir important de carbone, qui peut être amené d'ailleurs à le devenir peut-être de plus en plus. Vous avez peut-être entendu parler de l'initiative 4 pour 1000, qui aurait vocation à permettre de réguler en partie le climat par du stockage de carbone dans le sol. Enfin, ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Deuxième barre, celle que vous voyez un petit peu plus haut, c'est celle qui concerne le cycle des nutriments. Donc effectivement, les nutriments essentiels à la vie, notamment carbone, phosphore, azote, ont lieu beaucoup dans les sols. Et puis ce qu'on trouve aussi beaucoup dans la littérature, c'est la question du contrôle biologique des maladies et des prédateurs, ça surtout pour les sols agricoles. Et puis enfin, je vais m'arrêter là, la dernière grande barre, c'est celle du haut, qui est celle de la production primaire et de la question de l'approvisionnement, puisque quand même, bien sûr, les sols, notamment les sols agricoles, c'est beaucoup le support de la production végétale. Néanmoins, vous voyez que les sols, alors je ne me rappelle plus combien il y a de petits items, il y en a avoir une trentaine, on peut identifier 30 services auxquels contribuent les sols de façon plus ou moins importante et plus ou moins directe. Alors quand on s'intéresse aux services, on se pose aussi parfois la question des disservices. Donc ça c'est une question que j'ai pas beaucoup traitée personnellement, mais je vais attirer votre attention sur un point, donc c'est la raison pour laquelle on va parler quand même un petit peu des disservices. Donc vous avez ici une photo d'une zone humide. Donc, vous savez que les zones humides, elles ont pour vocation à notamment réguler des flux d'eau et qu'on essaye de ne pas supprimer toutes les zones humides. Alors là, il se trouve que ce n'est pas forcément une zone humide choisie puisque c'est un petit peu une inondation dans un champ agricole. Mais bref, les zones humides en général, on leur trouve du service puisque ils sont connus pour être des réservoirs de biodiversité, pour avoir des fonctions de régulation des flux d'eau, d'autres fonctions, je n'ai pas cité. Néanmoins, ces zones humides, ce sont éventuellement, pas toujours, mais ce sont éventuellement des zones importantes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce peuvent être des zones, des réservoirs de pathogènes. Alors vous voyez que sur la partie gauche de la photo, c'est plutôt des choses, entre guillemets, que l'on souhaiterait voir produites par ces écosystèmes de type zone humide. Et puis sur la partie droite, c'est plutôt ce qui nous dérange un petit peu. Donc sur la gauche, ce serait des services, et sur la droite, ce serait des disservices. Néanmoins, c'est bien le même espace qui va produire ces services et ces distances. Un autre exemple qui est celui d'une parcelle en grande culture. Alors, je prends cette photo-là exprès parce que j'ai assisté un jour à un exposé où il y avait à une journée de conférence où il y avait un sénateur qui s'était exprimé et qui, un sénateur écologiste, ça existe, et qui disait ça c'est pas beau, en plus il fait pas beau, il n'y a pas de biodiversité, etc. Et donc cependant, un agriculteur qui cultive cette parcelle en grande culture va vous dire « Ah mais j'y produis une production végétale en quantité et de bonne qualité parce que j'ai ici un milieu filtrant, sain, avec un réservoir d'eau suffisant, j'ai une bonne fourniture en éléments fertilisants, j'ai pas de pathogènes dans ma culture et j'ai pas d'adventice. » À l'opposé, on peut avoir, en regardant ce même paysage, une vision complètement différente qui est celle d'un milieu pauvre, il n'y a pas de biodiversité, ni dans le sol, ni dans le paysage. C'est un sol appauvri, entre guillemets, en éléments minéraux, en éléments organiques, probablement en quantité d'êtres vivants aussi dans le sol. Et c'est peut-être, alors là, bien sûr, c'est en période de culture, donc on s'en rend pas compte, c'est peut-être une zone où on a des érosions importantes. Et donc finalement, la question du service et du disservice, elle nous impose de nous poser de façon fondamentale la question du bénéficiaire. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important quand on s'intéresse aux services, la question des services écosystémiques. On a bien dit que c'était qu'on passait de la fonction au service lorsque l'écosystème générait un avantage pour un être humain. Et donc, il faut être capable d'identifier un bénéficiaire. Et il n'y a pas de service sans bénéficiaire. On a sinon plutôt des fonctions ou des processus ou des structures. Et selon le bénéficiaire, on va qualifier un milieu comme étant capable de rendre des services ou de rendre des disservices. Et sur les sols, c'est quelque chose auquel on est confronté assez facilement. Et on peut parfois, selon un bénéficiaire, décrire un milieu comme présentant des services et pour un autre bénéficiaire comme présentant des disservices. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler un peu plus spécifiquement des sols agricoles. Et je voulais attirer votre attention sur des particularités des sols agricoles et une ambiguïté de fond quand on s'intéresse aux services écosystèmes et aux services écosystémiques rendus dans les agroécosystèmes. En effet, le principe du service écosystémique, c'est que l'écosystème fonctionne et qu'il va produire des fonctions dont on va tirer des services bénéfiques. En quelque part, dans l'idée générale du service écosystémique, le milieu fonctionne per se, il n'y a pas besoin d'un apport extérieur. Or, l'agroécosystème, mais ici parmi vous, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le milieu urbain, donc c'est probablement la même chose, il n'y a pas d'agroécosystème sans intervention de l'homme, rarement. Il pourrait y en avoir, mais c'est rare. Et donc, quand on s'intéresse au sol agricole et aux services rendus par les écosystèmes en milieu agricole, on se pose d'emblée la question des pratiques. Donc, les pratiques agricoles, je vous en ai illustré trois ici, de l'irrigation sur la gauche, du travail du sol au milieu et de la fertilisation par des matières organiques sur la droite. Comment être capable de décrire les services rendus par un agrosystème pour l'homme, sachant que l'homme est lui-même un acteur essentiel de cet écosystème. Donc ça, c'est un problème de fond qui n'est pas résolu actuellement, rarement résolu actuellement, et qu'il faut toujours se poser quand on fait de l'évaluation. Est-ce qu'on évalue les services rendus par l'écosystème ou est-ce qu'on évalue les services rendus par l'écosystème via les pratiques qu'on y impose? Ça, c'est très important en matière d'évaluation biophysique et économique. Et puis, deuxième cas particulier des milieux agricoles, c'est la question de la graine. Puisque, bien sûr, les sols agricoles, une de leurs fonctions premières, pas unique, mais première, c'est bien sûr de faire de la production de biomasse. Et qui dit production de biomasse dit qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui a planté une graine. Et cette action de la graine, est-ce que cette action de planter et des conditions dans lesquelles on va planter et du choix de la culture et des techniques de semis, etc., qui sont une composante des pratiques agricoles également, est-ce qu'on doit le compter ou pas dans les services rendus par les agroécosystèmes? Alors là, c'est pareil, on n'a pas tout à fait résolu cette question. Je vous ai mis sur la droite, en bas à droite, une photo, ça ne se voit pas forcément sur la photo, mais c'est une photo de système en permaculture. Alors peut-être que les situations en permaculture seraient les seules situations où on pourrait imaginer évaluer des services rendus par les sols sans la contrainte, sans l'intervention humaine, excepté la graine. Cependant, à ma connaissance, les systèmes qui fonctionnent en permaculture n'ont pas les pratiques telles que celles que vous avez sur la première ligne ici, mais il y a quand même une attention constante du permaculteur pour s'assurer du bien-être de son système. Donc voilà des situations qui ne nous facilitent pas l'évaluation des services auxquels contribuent les sols. Alors, comme vous l'avez vu, on était en difficulté pour utiliser le cadre du Millennium Ecosystem Assessment, que la proposition de Hans et Jung nous fait progresser sur un schéma structure, fonction, service, bénéficiaire, mais que pour autant on n'a pas réglé la question des pratiques, intervient au début des années 2010 une nouvelle proposition qui est celle de considérer le sol comme un patrimoine, ce qu'on va appeler ici le patrimoine naturel. Voilà, où on va essayer de couper court à la question de l'absence du bénéficiaire et à la question que je vous ai évoquée tout à l'heure du double comptage économique quand on est dans le cadre du MEA. Et puis, il faut aussi régler cette question du statut des pratiques. Alors, la première proposition, c'est celle qui est faite par David Robinson, qui est un chercheur anglais, qui va dire qu'on pourrait considérer le sol comme un capital naturel, donc un capital au même sens qu'on a des capitaux économiques, là ça serait un capital naturel, et qu'on définirait ce capital comme un ensemble de stocks de masse, d'énergie et d'organisation à l'intérieur du sol. Alors vous avez ici une proposition où des auteurs l'année dernière ont décliné cette proposition de capital naturel sol. On ne va pas tout définir, mais vous voyez qu'il y a bien une entité, Robinson les appelait masse, bon, Stromberger les appelle physique, mais peu importe, on va qualifier les quantités de matériaux solides, liquides, gazeux. On va qualifier de l'énergie, en l'occurrence de l'énergie thermique ou bien de l'énergie potentielle liée à la structure. Et puis on va qualifier aussi de l'organisation. Alors, cependant, ce cadre conceptuel peut paraître, bien qu'il paraisse assez satisfaisant, il est assez difficile à mettre en œuvre pour faire de l'évaluation chiffrée. Et donc, des collègues néo-zélandais, c'est ça, s'emparent à peu près en même temps de la même question et essayent de replacer une proposition conceptuelle dans un cadre un petit peu dérivé de celui du MEA. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai représenté avec le même code de couleur. On va supprimer les services de support, on va conserver des services approvisionnement, régulation culturelle, et vous voyez qu'on a remis l'apport d'un support physique dans les services d'approvisionnement. Et donc Dominati conserve cette vision du MEA et dit qu'en amont de ça, on a non plus les services de support, mais on a le capital naturel proposé par le capital naturel constitué par le sol. Alors ce qui est intéressant dans la proposition d'Estelle Dominati, c'est qu'elle va séparer ce capital naturel en deux catégories. Une première catégorie, celle du haut, qui sont les caractéristiques intrinsèques du sol. Une seconde catégorie qui est celle du bas, qui sont des propriétés du sol modifiables par les pratiques. Alors, les pratiques agricoles, si on est en milieu agricole, mais les pratiques forestières, les pratiques humaines au sens large. Donc, dans la catégorie du haut, vous allez retrouver des éléments comme la pente, l'orientation, la profondeur du sol, même si on a dit que c'était difficile à qualifier, les types d'argile, la texture, la taille des agrès d'air profond, etc., les pièces d'humidité. Et puis, les propriétés modifiables par les pratiques, ça va être bien sûr la teneur en matière organique, ça va être les quantités d'un certain nombre d'éléments majeurs et mineurs, phosphore, azote, mais tous les éléments aussi. Ça va être partiellement la température du milieu, au moins dans l'horizon de surface, qui est vraiment modifiable par la pratique. Ça va être le pH de l'horizon de surface, ça va être bien sûr la couverture du sol, la taille des agrégats de surface et la masse volumique apparente. Et ce capital naturel, eh bien, il est dans un cycle permanent de dégradation et de formation-maintenance, à la fois sous le jeu des processus à très long terme liés au processus de modification du milieu abiotique et à très court terme liés à la vie, ce processus de formation et le processus de dégradation liés à la fois à ces processus naturels et aussi, il faut le reconnaître, quand même à l'action de l'homme. Donc voilà un cadre, je vous montrerai ensuite des exemples où on évalue des services dans ce cadre-là. Et puis enfin, une dernière proposition conceptuelle, c'est ce qu'on appelle l'approche de type functional land management, où là finalement, on va se dire, comme les pratiques agricoles c'est un casse-tête, et bien carrément on le met au milieu de la question. Et on ne s'interroge plus à savoir comment on va évaluer des services rendus par les sols en se demandant si on compte les pratiques, on ne compte pas les pratiques, carrément on les met au cœur de la réflexion. Alors, c'est une proposition qui a été faite par Roger Schulte dès 2013 et qui est actuellement le cœur d'un projet H2020 qui s'appelle Landmark, sur lequel contribuent des collègues français d'ailleurs. Donc, le point de base du Functional Land Management, c'est trois piliers. Donc, les fonctions des sols assurent des livres des services, admettons. Deuxième point très important, tous les sols assurent toutes les fonctions, mais à des degrés divers. Vous allez voir une illustration. Et on va définir donc ce qu'on appelle la fonctionnalité du sol en croisant des éléments de nature type de sol, des éléments climat et land use, et des éléments pratiques agricoles. Alors, leur proposition, elle est la suivante. Ils travaillent là dans le cadre du projet Landmark sur cinq types, catégories de services, on va dire. Donc, vous avez en blanc des catégories de services de type approvisionnement, donc en fibres, en nourriture et en énergie. Vous avez les quatre autres couleurs qui sont plutôt des services de régulation, donc un service de purification de l'eau en bleu, de séquestration du carbone, de réservoir d'habitat pour les êtres vivants, et puis de nutrient cycling. Alors là, c'est assez subtil dans leur proposition. C'est à la fois cycle des nutriments, mais c'est aussi recyclage des nutriments. Et donc, leur proposition, c'est de dire que l'ensemble des écosystèmes remplissent ces services à des degrés divers. Donc vous voyez que ces cinq couleurs, ils vont ensuite les décliner suivant les types d'écosystèmes. Donc vous avez par exemple tillage, c'est-à-dire les milieux agricoles quand on fait des grandes cultures, et bien sûr la fonction de cet espace, c'est beaucoup de la production agricole. En dessous, juste en dessous, vous avez de la prairie, grassland, où là, à la fois, on assure un petit peu de production végétale, mais on assure de façon plus importante des fonctions de purification de l'eau, de stockage de carbone et de réservoir d'habitat. Alors l'intérêt de la proposition de Schulte et de Rachel Kremer, c'est qu'on va pouvoir faire évoluer les services rendus par la voie du management et les faire changer de case. Alors je m'explique, vous avez ici une matrice en vert, dans les colonnes vous avez les différents types d'écosystèmes et puis en ligne vous avez des classes de drainage parce qu'en fait ce sont des Irlandais en fait qui sont à l'origine de cette proposition et qui ont beaucoup de questions, de problèmes de sol tourbeux et puis de sol engorgé d'eau. Et donc, par la voie du management, par exemple, imaginons qu'on draine, on va avoir un sol modérément drainé, de type prairie, et puis si on inclut du drainage, on va le faire changer de catégorie, on va avoir un sol bien ou même excessivement drainé. Alors l'intérêt de cette approche, c'est donc de pouvoir évaluer des scénarios d'intensification ou d'extensification, par exemple, et surtout de pouvoir évaluer ce qu'on appelle des compromis, puisque quand on s'intéresse à la question des services, bien sûr, les écosystèmes rendent plusieurs services à la fois. Est-ce qu'on est dans une situation où on veut favoriser, par exemple, de la production végétale, ou est-ce qu'on est dans une situation où on veut favoriser, par exemple, du stockage du carbone? Quel est le compromis entre services qui nous intéressent? Et ce cadre conceptuel permet d'évaluer d'évaluer des scénarios de modification pour qualifier les compromis. Voilà. Dernier point, je voulais vous présenter, mais très rapidement, le cadre conceptuel qui est proposé actuellement à l'INRA, puisque donc à l'INRA, on a des programmes qui sont transversaux à nos départements de recherche et qui s'appelle des métaprogrammes, et un métaprogramme actuellement qui s'appelle ÉcoServe, qui a vocation à évaluer les services écosystémiques. Alors dans la proposition du métaprogramme ÉcoServe, on sépare complètement l'agro-système. Oui, bien sûr, on est à l'INRA, donc on parle des agro-systèmes, pas des écosystèmes en général. On sépare l'agro-système en haut du socio-système en bas, et on va qualifier ces deux systèmes par leur structure et leur processus. Les structures de l'agro-système, c'est le sol, l'air, l'eau, la biodiversité. Les processus, ce sont l'ensemble des cycles sol-eau, la prédation, la dynamique de la matière organique, la pollinisation, etc. Et le socio-système, sa structure, ce sont le jeu des l'ensemble des agriculteurs, des conseillers, des chercheurs, des collectivités, etc., avec des processus de type consultation, qualification, conception. Et donc, ces agro-écosystèmes rendent un certain nombre de services. Là, on s'est placé dans le cadre d'une MEA, peu importe. Et le socio-système, via le management, renvoie des informations à l'agro-système. Donc là, on résout le problème de la question de la pratique agricole en la mettant à l'extérieur, et ce sont en fait des contraintes qui s'applique sur les deux systèmes. Voilà. Pardon. Donc si j'arrive à... J'ai très chaud là devant le... devant le truc là. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu parce que je suis dans le... Comment ça s'appelle, la soufflerie là, c'est un peu rude. Donc dernière partie de cet exposé, quelques exemples d'évaluation des services auxquels contribuent les sols agricoles. Alors moi, je ne suis pas économiste, donc je vais vous traiter ici que de l'évaluation biophysique. L'idée étant que si les évaluations biophysiques sont construites sur des bases partagées, les économistes pourront, s'ils le souhaitent, s'en emparer et faire des propositions d'évaluation économique. Alors, une proposition de méthodologie d'évaluation, qui est celle que l'on met en œuvre dans notre étude EFES, c'est de considérer trois étapes. Une première étape qui a l'air un peu simple, mais qui n'est pas complètement... Enfin, une étape zéro déjà, qui est de définir ce que c'est qu'un service. Je vous montrerai à la fin qu'on a eu beaucoup de mal à définir ce que c'est qu'un service parce qu'il y a des cadres disponibles dans la littérature qui ne s'y prêtent pas toujours. Première chose, définir des indicateurs de service. Alors, je vous mets deux services sur lesquels on travaille. Un service qui s'appelle « Capacité de l'écosystème à stocker et restituer de l'eau ». Donc, on a défini des indicateurs. Par exemple, la quantité d'eau annuelle évapotranspirée, puis il y en a d'autres. Un service très important sur les sols, c'est la maintenance de la structure du sol. Alors, comment qualifier ce service de façon simple? Bien, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Donc, on est toujours en cours de réflexion. Et donc, on n'ira pas jusqu'à l'évaluation de ce service. Une fois qu'on a défini un indicateur de service, il nous faut des variables biophysiques qui vont nous permettre d'évaluer ce service. Par exemple, pour qualifier la quantité d'eau annuelle évapotranspirée sur une parcelle agricole, on va avoir besoin d'un certain nombre d'informations, par exemple, entre autres, la réserve en eau utile maximale des sols. Et puis, à partir de ces variables biophysiques, on va évaluer au sens propre les indicateurs. Et pour ça, on va faire appel soit à ce qu'on appelle des fonctions de pédotransfert, soit de la modélisation sol-plante. Alors, modélisation sol-plante, on rentre des variables qui vont décrire le fonctionnement de la plante, le fonctionnement du système. Et depuis les variables de sortie du modèle, on va être capable de calculer nos indicateurs. Une fonction de pédotransfert, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui... C'est transfert au sens de transfert de l'information. C'est une fonction, en général, pas très compliquée, mathématique, de type relation linéaire, qui va relier une variable à une autre. Donc, par exemple, une fonction de pédotransfert, c'est une fonction qui va dire ma réserve utile du sol, elle est égale à A fois la teneur en argile, plus B fois la teneur en matière organique, plus C fois la masse volumique, plus etc. Ce sont des fonctions assez simples. Alors, aussi bien pour alimenter ces fonctions de pédotransfert que pour alimenter ces modèles sol-plante, il va nous falloir des variables qui décrivent les sols. quelles variables prendre en compte. Alors là, la littérature est particulièrement abondante sur les outils, les pré-variables, on va appeler ça des pré-variables, les caractéristiques du milieu qui sont nécessaires pour évaluer des variables biophysiques d'intérêt pour les services écosystémiques. Et donc, j'ai fait pareil une analyse de la littérature où j'ai recensé les caractéristiques qui sont le plus souvent citées comme étant absolument indispensables à l'évaluation de services rendus par les sols. Donc ça, c'est une analyse pareil sur au moins une trentaine de reviews, mais plus si on y ajoute des articles qui ne sont pas des articles de review. Et j'ai séparé exprès dans le cadre caractéristiques intrinsèques du sol et propriétés modifiables par les pratiques dans le schéma qui était proposé auparavant, que je vous ai exposé d'Estelle Dominati. Qu'est-ce qui ressort en premier ? La texture du sol, presque toujours on a besoin de connaître la texture du sol, sa teneur en matière organique et son pH. Et ça, ces trois éléments, texture, teneur en matière organique et pH, c'est ce qui est identifié par un certain nombre d'auteurs comme ce qu'on appelle le minimum dataset, c'est-à-dire quand on n'est pas très riche et qu'on a besoin de variables, mais on ne sait pas lesquelles, pour qualifier les sols, quand même au minimum, il nous faudrait ça. Alors, comment on s'y prend ensuite ? Donc, une fois qu'on a ces minimums, qu'on a identifié le contenu du minimum dataset, il faut pouvoir trouver les données et évaluer leur disponibilité. Et vous allez voir que parfois on est un petit peu en difficulté. Alors vous avez ici, je vous ai sorti des données qui sont issues des travaux de la Grande-Bretagne. Alors je vous ai dit en introduction, l'Europe demande à ses États membres de faire une évaluation de ses services écosystémiques sur les territoires et les Anglais l'ont fait de façon assez précoce. C'est le NEA, le National Ecosystem Assessment, qu'ils ont publié dès 2011. Alors eux, parmi leurs variables de qualification des écosystèmes, il y a la teneur en carbone dans les sols. Et ils sont capables de produire une carte de cette propriété sur l'ensemble de leur territoire. Sur des échelles plus petites, vous avez ici un sous-territoire, on produit aussi une carte de carbone dans les sols. Néanmoins, souvent, les indicateurs de services tels que je vous les ai décrits précédemment, ils mettent en jeu plusieurs caractéristiques du milieu et la difficulté, c'est de savoir comment on va pouvoir agréger des caractéristiques qui ne sont pas disponibles aux mêmes échelles. Alors je m'explique, je vous ai mis ici un exemple, certes c'est pas les sols mais c'est celui que j'ai trouvé, une carte de la diversité des plantes vasculaires. Imaginons que l'on ait besoin d'évaluer un service qui prenne à la fois en compte le stock de carbone dans les sols et la diversité des plantes vasculaires. Eh bien, la restitution de l'information spatiale et cartographiée de ce service doit tenir compte de la variabilité des échelles. Et donc, il faut réfléchir très en amont sur des stratégies d'association spatiale de données qui sont à des résolutions différentes. Bon, ça, pour vous qui devez être assez familier de l'utilisation de méthodologie de système d'information géographique, vous n'êtes peut-être pas surpris de ça, mais c'est important pour les évaluations des services et c'est aussi important pour les évaluations des compromis entre services. Alors, les évaluations de services auxquels contribuent les sols, il en existe, bien sûr, puisque le service européen qui souhaite que chaque État membre évalue ses services a fait quand même une proposition au niveau de l'Europe, c'est le projet MAES, Mapping Ecosystem Services, qui a été publié dès 2011. Donc vous avez ici une proposition où on vous propose les services de production timber, le bois, à l'échelle européenne. Alors vous voyez que les niveaux d'agrégation sont quand même diversifiés selon les territoires, et puis à l'échelle française, ils sont quand même assez peu précis, et bien sûr, on ne peut pas se contenter de ça. Alors on a d'autres services qui sont évalués par le MAES. Ici vous avez le service de rétention d'azote dans les sols et puis un service de contrôle de l'érosion. Alors contrôle de l'érosion, c'est pas exactement, c'est ni une propriété ni vraiment un service, on est un petit peu intermédiaire. Alors je change complètement d'échelle, on était à l'échelle européenne, maintenant je vais à une échelle très très locale. Et là on vient vers de la littérature très très récente, 2014, puisque de réelles évaluations dans la littérature, eh bien, c'est quelque chose d'assez rare. Donc, je vous propose un exemple de collègues français de l'IRD, Michel Grimaldi et ses collaborateurs, qui travaillent sur des fermes au Brésil et en Colombie, sur lequel ils ont fait des transectes de caractérisation de ces fermes qui sont très hétérogènes. Vous voyez les couleurs, ça vous dit qu'on a des endroits qui sont en forêt, des endroits qui sont en pâture, des endroits en pâture dégradée, des endroits en jachère. Voilà, disons des systèmes assez différenciés. Et puis ils ont fait des points par ferme et ils proposent ainsi des indicateurs en fonction de cette qualification des différents sous-écosystèmes dans leur ferme. Alors les indicateurs qu'ils ont retenus, c'est du stock de carbone dans les sols, du stock de carbone dans la biomasse de plantes, un index de qualité chimique des sols, une capacité du sol à stocker de l'eau, un taux d'infiltration dans les sols. On n'est pas encore vraiment dans le service. Le taux d'infiltration dans les sols, ce n'est pas un service. Il n'y a pas un bénéficiaire au bout qui dit « moi j'ai besoin de taux d'infiltration dans les sols ». Mais c'est intermédiaire entre une fonction et un service, et on va dire que la méthodologie, elle pourrait s'appliquer au service. Et donc là, mon propos, ce n'est pas de vous commenter les graphiques, mais c'est de vous illustrer qu'on est capable de mettre en comparaison différents types d'écosystèmes sur différentes variables. Ce qu'ont fait aussi Michel Grimaldi, que je ne vous montre pas ici, c'est qu'ils ont, en réalité, c'est caché dans les calculs, ils ont séparé les caractéristiques intrinsèques du sol et les caractéristiques modifiables par les pratiques. Et donc, ils se sont placés dans le cadre proposé par Dominati et al. Pour pouvoir justement évaluer la conséquence d'un changement d'usage vers un autre sur les services. Alors, moi, je pense que ce ne sont pas des services, ce ne sont pas encore des services, mais on va dire l'effet d'un changement d'usage vers une fonction. Un dernier exemple de ce qu'on trouve dans la littérature. Alors ça, ce sont des travaux qui, à la vitesse où vont les cadres conceptuels sur les services, peuvent paraître assez anciens, parce que ça date de 2011, mais avec une pratique assez originale, qui est complètement basée sur le rôle d'experts qui vont être dits experts spécifiques d'une discipline. Alors, vous avez ici un tableau qui est proposé par Rutgers où on a mis en colonne des services, alors selon une typologie encore différente, c'est à peu près autant de typologies que d'exemples, hein. Une typologie de services de production avec rétention en azote, structure du sol, etc. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit de la production, mais peu importe. Des services environnementaux, fragmentation de la matière organique, purification de l'eau par les nappes phréatiques. Et puis, en ligne, vous avez des paramètres qui sont des indicateurs, des processus, c'est très variable. Et on a demandé un certain nombre d'experts. Alors, des experts, c'est tout le monde, leur panel d'experts, ce sont des chercheurs, ce sont des agriculteurs, ce sont des conseillers. On leur a dit, par exemple, pour tel service, quels paramètres il faut mettre en jeu pour l'évaluer. On ne vous demande pas comment, on vous demande si vous deviez réfléchir sur comment, par exemple, je vais qualifier de la rétention en nutriments, j'ai besoin de quoi dans cette liste, de paramètres. Alors, ceux qui sont en gris, ce sont les indicateurs qui sont le plus souvent mentionnés. Alors, par exemple, sur la deuxième ligne, vous avez le paramètre matière organique des sols. Presque toujours, la matière organique des sols, ça sort comme un élément important de qualification des services. Donc ça, c'est en résonance avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le minimum dataset. Et puis, si on prend un service, par exemple, peu importe, au hasard, hein, le service, on ne verra pas trop de choses à raconter, nutrition, le premier là, rétention de nutriments, et bien pour qualifier rétention de nutriments, les experts disent il va nous falloir au premier rang de la matière organique et du potentiel de minéralisation de l'azote, au deuxième rang du potentiel de minéralisation du carbone, de l'abondance de vers de terre. Et puis à partir de ça, on va évaluer par une équation très simplifiée qui somme des valeurs de ces paramètres rapportées à une référence locale, on va qualifier différents écosystèmes. Alors, l'exercice, il a été mené pour 4 fermes. Pardon. On a évalué 10 services, qui sont les 10 services que vous avez ici en ordonné, pour 4 fermes, qui sont toutes situées aux Pays-Bas, dans des grandes cultures, sur des sols limoneux. Et on les évalue par rapport à une référence, qui est le cercle de niveau 1 que vous avez ici, qui est le réseau national des Pays-Bas. On a de l'information sur toutes les fermes qui possèdent ce même type de sol et ce même type de culture. On considère que c'est la référence et on va placer nos cas d'études par rapport à cette référence. Et vous voyez que ces quatre fermes, eh bien, il y a des services pour lesquels elles sont en dessous de la moyenne. Par exemple, le service, les premiers, là, de structuration du sol. Et puis, il y a des choses sur lesquelles elles sont au-dessus de la moyenne. Et donc, ça permet de faire de l'évaluation comparée dans un cadre donné de services rendus par différentes structures. Et ça permet donc aussi d'évaluer des scénarios éventuels de changement qui iraient vers en milieu agricole, de l'intensification ou de l'extensification. Et alors, je vois l'heure qui tourne, et avant que vous, je vais peut-être passer directement à la fin, je sais pas, il y a combien de temps encore?
Moins 5 minutes.
Moins 5 minutes? Donc je vais sauter. J'avais des choses que je voulais vous dire sur les pratiques agricoles, mais comme je vous ai aussi beaucoup dit que les pratiques agricoles, c'était compliqué à qualifier quand on s'intéresse au service, on va sauter la partie pratique agricole et je vais aller directement à mes éléments conclusifs qui sont la diapo numéro 30, la diapositive numéro 30, qui sont pas forcément des éléments conclusifs, qui sont plutôt des éléments un petit peu de réflexion. Alors, tout mon propos, ça a été de vous décrire les services auxquels les sols contribuent de façon plutôt directe. Et puis finalement, j'ai jamais été bien précis sur ce que c'était ces services. Alors, il y a des classifications de services qui sont en lien avec différents compartiments de l'écosystème dans ce qu'on appelle CISES, Common International Classification of Ecosystem Services, donc une proposition de classification des services écosystémiques qui est proposée par l'Agence européenne de l'environnement. Et dans la classification CISES, le sol apparaît très très peu. Il apparaît à un endroit qui s'appelle Soil Formation and Composition avec deux sous-items, donc Weathering Processes, les processus d'altération, et puis Decomposition and Fixing Processes, les processus de fixation et de décomposition. Quand on essaye d'évaluer les services rendus par les sols à l'échelle nationale dans ce cadre CISES, on se heurte vite au fait qu'on ne sait pas le faire. Comment on va qualifier les processus d'altération? Je n'est pas sûr qu'on sache faire de façon ubiquiste. Et puis surtout, il n'y a pas que les processus d'altération qui sont des processus à l'origine de la formation des sols. Et puis, il n'y a pas que la formation des sols qui est un processus d'intérêt pour évaluer les services. Donc, dans le cadre de l'étude sur laquelle je travaille, on a proposé de lister l'ensemble des services auxquels les sols contribuent directement. Alors, je me suis permis de le barrer parce que c'est en construction et s'il vous plaît, c'est du travail en cours, donc c'est non publié. Mais je peux les lister rapidement. Donc, la capacité de l'écosystème à stocker et restituer de l'eau, la fourniture en azote aux plantes cultivées, par exemple, la régulation climatique globale et la régulation des flux solides. Donc il y a beaucoup plus de services pour lesquels la contribution des sols est essentielle, voire centrale, et pour lesquels il faut tenir compte du sol pour les évaluer. Deuxième point que je veux souligner dans cette conclusion, c'est finalement les conflits de services et les compromis de services. Alors il y a un schéma qui a été très longtemps actif dans la littérature, qu'on commence à moins voir, qui était le suivant. Si on trace les services de régulation en fonction des services d'approvisionnement, très souvent, on a une direction comme celle-ci. C'est-à-dire, plus on fait de l'approvisionnement, c'est-à-dire finalement, plus on intensifie la production agricole, et plus les services de régulation qui peuvent se mettre en œuvre sont de bas niveau. Et la question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut passer de ce conflit de services entre services de régulation et services d'approvisionnement vers du compromis entre ces services d'approvisionnement et ces services de régulation, et est-ce qu'on est capable de proposer un autre scénario d'évolution? Alors si on fait rien, on risque d'aller vers ça, et ça c'est un scénario pas du tout soutenable, parce que le jour où on n'assurera plus aucun service de régulation, il y a quand même un moment où les services d'approvisionnement vont rebasculer. Et donc il y a des propositions qui vont vers le compromis entre les services de régulation et les services d'approvisionnement. Et ce sont en particulier les démarches d'agroécologie qui doivent réconcilier des pratiques qui permettent de ne pas avoir de diminution de service de régulation tout en maintenant un approvisionnement de niveau élevé. Et donc, il faut éviter les conflits, il vaudrait mieux aller vers les compromis et tant qu'à faire, carrément, aller vers la synergie de service. C'est tout l'enjeu d'une partie de la communauté qui réfléchit sur les services écosystémiques, de travailler vers les synergies de service. Et les services culturels. J'ai pas beaucoup parlé des services culturels rendus par les sols agricoles, enfin auxquels contribuent les sols agricoles. Et pourtant, les sols agricoles, et plus particulièrement les pratiques agricoles, elles façonnent le paysage. Et donc, quand vous avez ces deux photos devant vous, vous avez quand même une impression. Vous ressentez quelque chose, et donc ces paysages génère en vous une émotion esthétique, peut-être spirituelle, et donc il participe de produire pour un service. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire la photo de droite, elle ne m'intéresse pas, je ne la trouve pas exaltante, et donc ce n'est pas ce paysage-là que je veux voir. Et je vais vous montrer que c'est quand même une question de bénéficiaire, parce que vous avez ici ce même champ de grande culture tel qu'il était vu par Vincent Van Gogh à la fin du 19e siècle. Donc quelque chose que vous pourriez trouver joli, entre guillemets, agréable. Et je vous ai cité également, parce que je suis quand même orléanaise de souche, la présentation de la brousse à Notre-Dame de Chartres par Charles Péguy, donc le poète orléanais, qui qualifie la lourde nappe et la profonde houle de l'océan des blés, un magnifique texte à la gloire de la culture. Voilà. Et alors, comment on fait sa biblio où on peut? Je, pour terminer, je vous montre cette photo que j'adore, issue de France Soir. Où il y a un ensemble de... Alors la région, je ne sais plus dans quelle région on est. Attendez, je regarde mes notes. On est à Auvers-sur-Oise. Voilà, c'est des peintures d'Auvers de Van Gogh. Et les gens d'Auvers-sur-Oise ont eu l'idée d'inscrire les paysages dans le lieu où Van Gogh les a peints et donc d'associer la vision de Van Gogh et la vision actuelle. Et là, on est en plein dans la question du service culturel rendu par les paysages agricoles. Voilà, et pour servir, et pour finir, je vais revenir sur le titre de mon exposé. Le titre, c'était « Les services écosystémiques auxquels contribuent les sols ». J'ai été, j'espère, assez attentif pour ne jamais dire « les services des sols » ou « les services rendus par les sols ». Pour quelle raison? Je m'entête à dire « les services auxquels contribuent les sols » parce que, pour moi, le sol, ça n'est pas un écosystème. On n'a pas raison de parler du service écosystémique des sols. On a encore moins raison de parler du service des sols. Le sol, c'est une composante de l'écosystème. Néanmoins, il y a des écoles qui ont des pensées différentes et qui ont même publié une revue qui démarre. Il y a une revue qui s'appelle Sol, Écosystème, Services. Donc là, on est carrément dans le service des sols. Et pourquoi je pense ça? Bien, je vous l'ai dit, parce que le sol, ça n'est pas un écosystème, mais une composante de l'écosystème. Et que très probablement, maintenant que ça fait une heure que je vous parle des services rendus par les sols, je pense qu'il faudrait plutôt parler des services rendus par la zone critique. C'est-à-dire de replacer le sol dans la zone critique qui a comme limite basse la zone saturée et qui a comme limite haute le toit de la canopée. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même les flux d'eau et d'air qui vont notamment vers la zone souterraine et puis qui repartent vers l'atmosphère qui sont importants. Et puis aussi parce que la plante dans le sol, c'est une composante, la plante c'est une composante essentielle du fonctionnement de l'écosystème et que quand on parle du sol, on ne sait jamais trop quoi faire exactement de la plante. Il y a bien ses racines dans le sol, mais il y a sa partie aérienne au-dessus du sol, et donc on ne sait pas trop comment c'est. Donc finalement, peut-être que la vraie question, c'est quels sont les services rendus par la zone critique. Donc je vous remercie de votre attention. J'en profite pour attirer votre attention sur deux colloques qui peuvent être d'intérêt pour vous qui vous intéressez aux services écosystémiques. Donc bien sûr, il y a le colloque international proposé par nos collègues ici à Tours sur apport et pertinence dans les milieux urbains, où il est probable que toutes ces questions d'anthropisation que j'ai soulevées pour les milieux agricoles sont aussi prégnantes, voire plus, dans les milieux urbains, donc fin mai à Tours. Et puis au mois de décembre aura lieu un colloque sur la thématique dite soil security. Donc ça, c'est un concept qui émerge depuis quelques années dans notre discipline, où l'idée c'est de dire que pour assurer la sécurité alimentaire, le changement climatique, la sécurité énergétique, etc., il faut absolument, et la protection de la biodiversité, il faut absolument placer le sol au cœur de nos réflexions. Et vous avez ici un petit schéma à le sol est au milieu et puis vous avez 6 pétales et vous regardez la pétale à 4 heures et vous verrez qu'il est question de service écosystème. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Donc, on dispose d'environ 30 à 45 minutes de jeu de questions-réponses. N'hésitez pas. Qui se lance ? Sabine, ta question.
Oui,
bonjour.
Tu nous as montré en fait comme c'est quand même hyper complexe de vouloir qualifier des services auxquels participent les uns, etc. Je me demandais finalement en quoi consiste plus en détail votre programme auquel vous participez. Donc, est-ce que vous allez quand même évaluer des choses, quantifier des choses
Oui. Donc en fait, le programme EFES, c'est évaluer. C'est évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques. Donc il y a déjà une partie évaluation de l'écosystème, c'est-à-dire de l'état de l'écosystème. Et donc sur les écosystèmes agricoles, bon, moi je vous ai présenté ici des choses sur les sols, mais on travaille sur la production végétale, la production animale, la pollinisation, etc. Et donc sur la partie vraiment où le sol est au cœur, il y a quand même ce tableau que j'avais mis en construction sur lequel on travaille. Alors il y a des services sur lesquels on en est encore à l'étape conceptuelle. Par exemple, comment définir un service maintenance de la structure du sol ? On est assez persuadé que c'est nécessaire d'avoir un service maintenance de la structure du sol parce que c'est une structure de bonne qualité qui va permettre des transferts idéaux pour... merci Alexia. Des transferts idéaux pour à la fois l'aération, les transferts d'eau, la production végétale, etc. Tous les services un peu d'approvisionnement et de régulation. Mais on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment s'y prendre. On est dans le front de connaissance là où on ne sait pas encore assez bien qualifier la dynamique de la structure, comment elle évolue et comment on va le faire. Après, on a des services pour lesquels les sols sont centraux et sur lesquels on a des idées. Par exemple, capacité des sols à stocker et à restituer de l'eau. C'est un service central rendu par les sols parce que c'est bien la quantité d'eau qui va arriver dans l'écosystème qui va être maintenue dans le sol, qui va permettre à la fois la recharge des nappes, qui va permettre la production végétale, etc. Et donc là, on a des indicateurs. Donc par exemple, pour capacité du sol à restituer de l'eau, il y a un indicateur qui est quantité d'eau annuelle évapotranspirée. Il y a un autre indicateur qui est quantité d'eau annuelle drainée. Il y a un indicateur qui est quantité d'eau transpirée. Donc là, c'est vraiment ce qui est passé par la plante, etc. Donc il y en a sur lesquels on va produire à l'échelle nationale une évaluation. Comment méthodologiquement on va s'y prendre ? Eh bien, on utilise de la modélisation sol-plante sur l'ensemble du territoire. Donc on a un schéma de modélisation extrêmement complexe qui va couvrir tous les sols du territoire avec une entrée qui est la base des sols au millionième, sur lesquels on superpose, on croise une grille occupation du territoire pour ne retenir que les milieux agricoles. On croise la maille safran climatique pour avoir les climats. Et là, on enchaîne quelques millions de simulations pour calculer des moyennes de ces valeurs sur 30 ans, etc. Donc ce service, on va pouvoir le qualifier. On va pouvoir aussi qualifier pas mal les écosystèmes. Par exemple, réserve utile des sols, c'est pas un service, mais c'est un état, c'est un qualificatif de l'écosystème, on va pouvoir le faire.
En fait, vous partez des données qui existent déjà, en fait. Tout ça, vous n'avez pas de l'acquisition de données.
Dans l'étude EFES, non, parce que c'est trop court. En fait, l'étude, elle a débuté janvier 2015 et le résultat, c'est juillet 2016. Donc, on a passé énormément de temps sur la partie conceptuelle de se reformer un cadre partagé, de redécrire, de définir les services, de définir les indicateurs du service. Et là, il en reste quelques mois pour faire tourner des modèles, donc on ne fait pas d'acquisition. Mais par contre, on ouvre des questions de recherche dont on espère bien qu'elles vont permettre ensuite de faire de l'acquisition de données. Et puis après, on utilise aussi tout ce qui est déjà dans la littérature. Il y a des services, pas spécialement pour les sols, mais il y a des services sur lesquels l'évaluation MAES européenne, elle est suffisante et elle est bonne et il n'y en a pas à revenir dessus.
Une question à Nogent, c'est possible. Oui, bonjour, vous m'entendez?
Oui.
Ouais, donc Frédéric Gosselin à Nogent. C'était sur les cadres conceptuels. J'avais trois questions, enfin deux questions et une remarque. Finalement, j'ai pas tout à fait compris dans votre travail INRA, quel est le cadre que vous retenez pour vous? C'est ma première question, parmi tous ceux que vous avez présentés. Est-ce que c'est le cadre d'EcoServe, de votre métaprogramme EcoServe, ou est-ce que c'est d'autres cadres? Peut-être que j'ai pas bien suivi. Deuxièmement, est-ce que vous avez pris en compte dans tous les cadres possibles celui qui a été développé par EFES au niveau national, donc dans le, je crois que ça s'appelle le cadre conceptuel ou je sais plus quoi d'EFES, donc comment est-ce que vous positionnez par rapport à ce cadre-là? Et ma dernière question, c'est pas une question, c'est une remarque. Finalement, dans tous ces cadres conceptuels, il y en a certains qui placent la biodiversité au tout départ, et puis finalement celui autour duquel vous semblez plutôt travailler, qui met le capital naturel au départ, y a très peu de biodiversité dedans, à part peut-être la matière organique. Et donc le semi-vivant par lequel vous aviez introduit, je le vois plus trop dans le capital naturel finalement, qui me semble assez... Enfin, j'exagère un peu, mais plutôt physique et chimique. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut marier les... Moi, je suis sensible aux deux. C'est-à-dire que je pense qu'une approche qui mettrait comme cadre conceptuel uniquement la biodive au départ est un peu naïf parce qu'il manque du physique et du chimique. Mais à l'inverse, un cadre conceptuel où il y aurait que du chimique et du physique et pas beaucoup de biodive est un peu gênant quand même, quoi. Voilà.
Oui. J'essaye de me rappeler toutes les questions. Alors, je reviens déjà sur le cadre EFES national. Effectivement, les pilotes de l'étude, moi je suis intervenue après en fait, hein, les pilotes de l'étude, ils ont fait une évaluation des cadres généraux qui permettent d'évaluer les services, au premier rang desquels, bien sûr, le cadre EFES national. Et puis, on a vite buté sur cette question des pratiques agricoles en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu de nouveau une analyse de la littérature pour savoir où on allait placer les pratiques au regard du service proposé par EFES. Finalement, la proposition d'EFES, c'est une proposition dérivée de Hanzhong et Pochin, où on a vraiment les services, on a structure, fonction, service bénéficiaire. Par contre, dans EFES national, il y a le concept du service écosystémique intermédiaire, le concept du SEI, qu'on a du mal à s'approprier parce qu'on a vraiment remis au cœur de la discussion la question du bénéficiaire. Donc finalement, le cadre dans lequel on travaille, il est pour la partie générale de l'étude EFES écosystème agricole fortement inspiré de EFES national, mais avec le bénéficiaire remis au centre et avec la question spécifique des pratiques. Après, je n'ai pas en tête tous les éléments du cadre général, hein, donc je dis peut-être des bêtises, mais par contre, le rapport intermédiaire, il doit être consultable. Et pour ce qui est de la question des sols, c'était ça... Ah oui, et oui, finalement, dans quel cadre général on travaille, nous? En fait, on a, sur la question des sols, on a remixé un petit peu tout. Et donc là, on est en train de rédiger un cadre qui est... très proche du cadre d'Estelle Dominati avec le capital naturel, mais sans pour autant évaluer toutes les composantes du capital naturel parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc on est en train de finaliser quelque chose qui s'appuierait sur ça, qui serait un mix de Dominati et puis Hanzhong et Pochin, si je peux résumer. Et alors au final, la biodiversité, alors je suis consciente que mon exposé, il est tiré par ma sensibilité personnelle qui est celle de la physique du sol, et où il n'y a pas beaucoup de biodiversité, donc ça je le sais. Les services sur lesquels j'ai travaillé moi, en fait, c'était vraiment des services sur lesquels la biodiversité n'était pas au cœur de la réflexion, la capacité à stocker de l'eau, enfin, disons, la biodiversité au sens... bien sûr, la matière organique est fondamentale, mais par exemple, diversité des arthropodes, diversité des invertébrés, quantité de nématodes, etc. C'est des indicateurs qu'on a conservés pour qualifier les écosystèmes, mais qu'on n'utilise pas dans notre étude sur l'évaluation des services. Après, il ne faut pas perdre de vue que pour l'instant, on essaye de tenir les délais et donc on essaye de faire la proposition à l'échelle nationale et que si on avait... il y a des situations plus localisées où on pourrait sûrement aller plus loin sur cette question-là. Et au final, par contre, il y a un consensus dans le groupe des experts pour continuer à dire que la biodiversité, c'est pas un service. J'espère avoir un peu répondu. Je ne vois plus qui a posé la question, il y a un groupe qui est parti.
C'est...
Vous vouliez poser une question ?
Oui, Mathias Vance. J'ai un commentaire sur, sur la biodiversité qui est au début des fonctions des écosystèmes qui sont ensuite utilisées pour l'interprétation comme service écosystémique. Il y a des liens très très clairs entre la biodiversité dans les sols et par exemple stockage de carbone, etc. Mais je comprends que dans ce cadre temporel, c'est difficile à réaliser des études standardisées. Ma question, c'est sur l'aspect de durabilité. Le sol, c'est-à-dire la partie de notre système global la plus méprisée, la plus détériorisée et détruite qu'on voit. Et le concept de Ecosystem Services a un grand, vous avez déjà mentionné ça, un grand point négatif, c'est défini par l'usage, c'est-à-dire par les bénéficiaires qui peuvent changer. Donc si je protège une forêt à cause des pollinisateurs, l'année prochaine j'ai quelques plantes qui sont fertilisées par le vent, donc ma forêt ne sert plus à rien dans cette interprétation très utilitariste. Donc, à mon avis, l'aspect de maintien de la fonctionnalité et l'aspect du futur et de la durabilité devrait rentrer dans cette évaluation du service, c'est-à-dire la capacité de maintenir la fonctionnalité du sol est aussi un service écosystémique. Ouais. Et qu'il faut valoriser, sinon on risque de sacrifier la fertilité du sol à un usage à court terme qui va détériorer le sol. Est-ce que vous avez un indicateur pour cet aspect temporel là-dedans, dans votre jeu des indicateurs?
Alors non, parce qu'on s'est posé la question en fait dans l'étude Éphèse, comment on allait s'intéresser à la question du futur. Effectivement, et de la durabilité et du maintien des fonctions et des services. Comme je vous l'ai dit, il se trouve que le cadre de notre étude est très contraint et donc on a dans un premier temps dit on va faire l'évaluation maintenant. Mais par contre, le fait que pour un certain nombre de services, on utilise la modélisation, ça va nous permettre après la fin de l'étude, s'il y a des moyens, des volontés, je ne sais pas pour poursuivre, ça va nous permettre de faire jouer des scénarios et de pouvoir identifier si on maintient ou si on dégrade des fonctions. Donc ça, ce n'est pas le cadre strict d'Éphèse, mais notre proposition, elle n'interdit pas de le faire d'une part. Et d'autre part, ce qui peut permettre, un cadre qui peut permettre de le faire, c'est le projet Landmark, le projet européen qui est piloté par Rachel Plumer en Irlande, où l'approche par le Functional Land Management, elle est, personnellement, je la trouve réaliste. Mais elle est réaliste si les gens qui s'emparent du cadre sont des gens raisonnables quand même. L'idée, c'est de dire tous les espaces agricoles, les espaces agricoles remplissent presque tous toutes les fonctions, ils ne les remplissent pas toutes au même moment et à la même intensité. Et donc, comment on peut imaginer une répartition spatiale optimale de ces services pour pouvoir maintenir les fonctions des sols? Je ne dis pas que sur le plan éthique ou philosophique, ça n'aurait pas des limites. C'est-à-dire que je ne suis pas très sûre qu'on puisse dire à quelqu'un « Bon, bah toi, ton espace-là, dont tu es propriétaire, il est dédié à la production agricole, puis toi, ton espace-là, il est dédié au maintien de la biodiversité, et puis, etc. » Donc, il y a des cadres législatifs qu'il faut inventer, que moi, je ne connais pas du tout, mais disons que juste sur l'évaluation biophysique, cette proposition du Functional Land Management, je pense qu'elle apporte des réponses. Et elle permettrait peut-être d'éviter des dégradations. Après, sur le fait que le sol est méprisé, piétiné, c'est le cas de le dire, etc., c'est vrai, j'espère que c'est de moins en moins vrai. Il y a eu quand même beaucoup d'actions vers le public, vers le grand public, sur la prise en compte de la nécessité des sols. il y a des choses, on peut discuter si c'est pertinent ou pas, le 4 pour 1000, mais n'empêche qu'on remet les sols au cœur de la discussion. Et c'est pareil, il y a beaucoup de débats actuellement sur la sécurité alimentaire, mais on remet quand même le sol. Donc moi, je pense que dans l'inconscient général, le sol, il reprend de sa valeur. Et puis voilà, après, à nous d'utiliser le cadre des services pour s'assurer qu'on va maintenir sa fonctionnalité. Est-ce que c'était un peu ça que vous vouliez ?
Oui, mais pour moi, c'est vraiment des indicateurs, par exemple, de la structure du sol,
oui,
qui montrent une certaine qualité, une intégralité écologique,
oui,
du sol, qui inclut aussi des indicateurs pour le bon fonctionnement de la faune et des micro-organismes.
Oui, alors après, donc pas dans l'évaluation des services écosystémiques, mais dans l'évaluation des écosystèmes. Donc il y a des indicateurs, je ne les ai pas tous en tête, qui sont diversité des nématodes, il me semble, c'est un indicateur important, c'est la qualité. Qui sont après, il y a des indicateurs physiques qui sont difficiles à évaluer, comme la masse volumique du sol, qu'on va essayer d'évaluer, mais c'est très difficile quand on est à l'échelle nationale. Tout de suite, on est dans du Moyen-Âge tout à fait pertinent. Sur des espaces plus petits, trouver des indicateurs de la qualité de l'écosystème, ça c'est disponible et il y en a qui sont publiés.
Yoann Payet à Nogent, j'avais une remarque et une question. J'ai participé au groupe FS Forêt et je suis assez content de voir que vous vous êtes affranchi du cadre conceptuel d'FS qui est très contraignant et qui a satisfait personne, en tout cas dans le groupe Forêt. J'avais une question, vous faites jamais appel au concept de service environnemental, est-ce que c'est voulu ? Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Ce qui permettrait une entrée pratique plus simple, enfin de résoudre en partie en tout cas l'entrée par les pratiques ?
Je suis pas sûre de qu'on s'entende sur le vocabulaire, du coup vous pouvez préciser service environnemental ?
Alors, service environnemental, encore une fois, pas au sens où l'entend Éphèse, mais service environnemental au sens où, à partir du moment où il y a un intermédiaire, une transformation du service écosystémique par un intermédiaire que peut être l'agriculteur, on est dans le cadre du service environnemental. C'est la définition de la FAO, si je ne me trompe pas.
On a énormément réfléchi sur le service intermédiaire et sur l'interaction du bénéficiaire dans le service, ou plutôt une interaction humaine dans le service, même si au final c'est pas le bénéficiaire final. Et puis c'est difficile, donc finalement on a décidé de traiter la question non pas par ce biais du service environnemental, mais en réalité ce qu'on va faire pour un certain nombre de services qu'on va évaluer par modélisation, on fait tourner notre modèle culture avec des pratiques moyennes. Alors dans chaque région, on a identifié par exemple quelles sont les rotations types, quelles sont les pratiques types en termes de fertilisation de ceci, de cela. Donc on fait un scénario comme ça, et on fait un scénario où la seule intrusion, c'est la graine. Que je disais tout à l'heure, la seule intrusion c'est la graine, et on va comparer, enfin si on arrive à aller jusque là, on va comparer au cours du temps de la divergence ou pas, des sorties des modèles, et donc de l'évaluation du service avec les pratiques ou de l'évaluation sans les pratiques, sous réserve que le modèle ne diverge pas, et ça on n'a pas encore évalué. Alors ça s'approche peut-être de ce que vous appelez le service environnemental. On ne l'a pas appelé comme ça, en fait. On fait soit le scénario avec les pratiques de l'agriculteur, soit le scénario avec juste la graine. Bon, je sais pas là-bas dans le nord, mais ici je peux vous dire, il fait chaud.
Dernière question.
Je peux la suivre. conclure.
C'est facile, il suffit d'être bien okay. Du côté de, du Petit Orléans ou du Grand Nord, y a-t-il une question?
Mais en fait. Orléans et Inra.
Ah, il n'y a pas de décalage horaire.
Donc il y a
reste en Lambert.
Et puis il y a un
reste en
Lambert. Ah non, c'est nous là. D'accord. C'est nous en bas.
D'accord. Très bien, il me reste à remercier Isabelle pour sa présentation.
Avec plaisir.
Et à rappeler qu'il y a régulièrement donc, des séminaires. Mardi entre 13h30 et 15h30, le prochain étant celui de Bertrand Sajaloli du CEDET sur la question des relations entre religion et environnement. Donc un tout autre domaine, mais toujours en lien avec les thématiques de midi. Voilà. Merci à tous. Merci.